France Culture. Les nuits de France Culture.
Dans la longue histoire des combats paysans, la lutte du Larzac occupe une place à part. Pendant une décennie, à partir de 1971, militants, étudiants, organisations de la société civile se mobilisent, marchent, campent, manifestent contre un projet d'extension de camps militaires décidé par le pouvoir gaulliste. Au cœur de cette contestation, les paysans du Larzac, enchantés de voir s'agréger à eux un mouvement si large, malgré quelques décalages culturels forcément, quelques frictions rendues inévitables par un assemblage sociologique si large. Un point final est mis à cette affaire du Larzac en 1981, après l'élection de François Mitterrand, qui décide de mettre un terme au projet controversé. La mobilisation victorieuse du Larzac devient un mythe. Le modèle d'un combat acharné mené avec constance contre un ennemi en apparence beaucoup plus puissant. Que restait-il justement de ce mythe du Larzac une génération plus tard? C'est la question posée dans l'émission que voici, deuxième volet d'une série de l'Histoire en direct. Comme d'habitude dans ce programme, le débat suit le documentaire. Ce débat du 8 septembre 1997 constituait un remarquable écho aux luttes paysannes et sociales du passé, en donnant notamment la parole à un certain José Bové, 2 ans avant l'affaire du McDo de Millau, elle-même annonciatrice de nouvelles luttes paysannes pour toute une génération. Voici donc l'Histoire en direct, le Larzac, deuxième volet, une émission d'Emmanuel Laurentin.
L'Histoire en direct. Le Larzac.
Il ne s'agit pas de récupérer, d'utiliser et le Larzac et les paysans qui y vivent, mais de vous dire une fois encore que leur cause est aussi la nôtre, comme celle de tous ces milliers de gens venus sans rien demander, qui, mieux que le monde ouvrier, peut ressentir l'angoisse et la souffrance du déracinement et de la perte de l'outil de travail. Nous sommes tous des Larzaciens en part entière.
Nous sommes 103 paysans, invités à foutre le camp.
En 1970, le secrétaire d'État à la Défense, André Fanton, profite d'un congrès régional de la majorité de l'époque pour annoncer l'extension du camp militaire situé sur le plateau du Larzac, au sud de Millau. Ce qui aurait dû être une opération sans risque pour le gouvernement va rapidement tourner à l'embrouillamini. Les paysans du plateau, éleveurs de brebis pour beaucoup, n'acceptent pas dans un premier temps la nouvelle qu'ils apprennent par la télévision. Ils sont rapidement rejoints dans leur contestation par des gauchistes du sud de la France, soucieux d'allumer, quelques années après 68, des foyers de contestation. De marche sur Paris, en grève de la faim, les opposants au camp militaire, adeptes de la non-violence active, sauront, tout au long des années 70, user du bénéfice de sympathie que leur combat, mouton contre canon, comme on disait à l'époque, leur apporte dans l'opinion. Mais il faudra attendre 1981 et l'élection de François Mitterrand pour que le projet de camp soit définitivement abandonné. Pourquoi ce combat est-il devenu dans les années 70, avec celui de Lippe, le symbole de la contestation contre un État jugé trop lointain? Comment se sont mêlés pacifistes, paysans, antimilitaristes, chrétiens ou immigrés sur un plateau tout étonné de les voir s'arrêter ici? Le Larzac, mythifié d'aujourd'hui, n'a-t-il pas connu, durant ces 10 années de lutte, les déchirements naturels à ce genre de combat? Voilà les questions que nous aborderons ce soir, donc pour cette émission de l'Histoire en direct, avec José Bové, paysan du Larzac, bonjour.
Bonjour.
Avec le colonel Gérard Hinman, délégué militaire départemental de l'Hérault et ancien responsable du camp du Larzac, de 1988 à 1990. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Didier Martin, qui est sociologue, et avec Alain Liquietz, porte-parole des Verts, et ainsi qu'Alexander Allan, qui est anthropologue et professeur à l'Université de Columbia. Alexander Allan, vous êtes revenu, bonsoir, vous êtes revenu exprès pour nous, pourrait-on dire ?
Exprès pour vous, oui.
Depuis
de
Columbia.
New York, depuis hier matin, oui.
Et donc, malgré les décalages horaires, vous vous sentez capable d'aborder cette question ? Vous connaissez bien depuis très longtemps, Alexander Allan, puisque vous êtes arrivé sur le plateau du Larzac très tôt, tout compte
fait. On est arrivé en 67, mais pas sur le plateau, mais dans la vallée sud, près de l'Oderbe.
Cela fait une grande différence, justement, parce que quand on va sur le Larzac, on a l'impression qu'il y a une différence géographique entre les gens du Nord et les gens du Sud. Entre ceux qui sont près de l'Odève, disons, et ceux qui sont plus près de Millau.
Oui, non, mais je suis dans la vallée, et ça, c'est deux mondes totalement différents, parce que nous avons les vignes, les amandiers, etc. C'est le midi, même les gens de Larzac parlent du midi, c'est chez nous. Mais nous sommes juste au pied du Larzac, et il y a ce changement extraordinaire.
Le pas de l'escalette.
Oui, voilà.
Et ça change tout, effectivement.
Ça change tout, oui. Oui. C'est très sec sur le Larzac, au moins en été, pas en hiver. Il y a les moutons, les brebis. Il y a la culture, mais la culture plus extensive qu'intensive. C'est pas du tout la même vie.
Et vous expliquez dans le Larzac et après, qui est donc une étude qui est parue à l'Harmattan, que vous avez faite donc sur ce combat du Larzac, que tout compte fait au départ vous étiez intéressé parce que vous étiez voisin d'une certaine façon de ce combat, mais que vous y êtes intéressé une fois qu'il était terminé.
Oui, là, parce que j'étais très impressionné par le fait que le Larzac vit toujours et en France c'est très mal connu. Les gens sont très, très impliqués dans plusieurs choses, commençant par l'économie, parce qu'il faut vivre, mais il y a l'antiracisme, il y a l'écologie, il y a cette proteste contre les essais nucléaires, même José était à Montreuil, etc. Et puis, il y a la solidarité sur la cause qui est extraordinaire, parce que s'il y a un problème chez un paysan, et tout le monde est mobilisé tout de suite. Hein. Et je trouve ça vraiment extraordinaire, parce que nous sommes en 87, et ça vit vraiment, vraiment toujours, et c'est dommage que les Français ne savent pas.
Didier Martin, vous étiez intéressé, vous, en tant que sociologue, un peu plus tôt, à ce Larzac et à, disons, à ce combat du début des années 70 et également jusqu'au début des années 80.
Disons que j'étais d'abord impliqué en tant que militant, puisque j'étais à l'époque militant antimilitariste, et c'est la conjonction du fait que je faisais à l'époque un cursus de sociologie, et donc je préparais une thèse de doctorat, et je dirais la jonction s'est faite entre un souci militant et la nécessité de trouver, comme on disait, un terrain de recherche. Et c'est un mouvement qui m'a justement particulièrement intéressé, parce qu'il était totalement surprenant en espace rural, et se produisant, disons, trois ans après mai 68, c'était un mouvement inattendu. Inattendu, complexe et mouvant. Et c'est à partir de ce souci-là, et puis même, je dirais, le souci de mesurer le rapport qu'il y avait entre les images que je pouvais avoir, les représentations que je pouvais avoir, moi, en tant que militant extérieur, et ce que je pouvais attendre du Larzac, et la nécessité, je dirais, en tant que sociologue ou apprenti sociologue à l'époque, d'aller essayer de faire le rapport entre ces représentations et les réalités complexes du plateau.
José Bové, est-ce qu'il y a une carte d'anciens militants du Larzac ?
Non, je ne crois pas qu'il y ait de carte, parce que pour nous qui habitons sur le plateau, pour nous, il n'y a pas eu de différence entre les années de lutte et puis la vie qu'il y a eu après.
C'est-à-dire que la coupure à laquelle nous sommes convenus de discuter, celle de 81, n'est pas une coupure pour vous. En fait, il y a une continuité.
Voilà, tout à fait, parce que le mouvement qui s'est créé entre les gens du plateau, plus tout le mouvement de soutien extérieur, tous les comités Larzac, c'est quelque chose qui, pour nous, a continué après 81. Et toute l'énergie qu'on avait mis jusqu'en 81 à lutter contre l'extension du camp militaire, on l'a mis ensuite pour essayer de construire autre chose, pour essayer de mettre en place des choses innovantes qui n'existaient pas en milieu rural en France. Et donc, pour nous, ce combat pour, par exemple, créer la société civile des terres du Larzac, qui était en fait un office foncier que la gauche avait promis, mais dont elle n'a jamais tenu compte réellement, qu'elle a refusé de mettre en place, on s'est battu pour le mettre en place. Installer des gens, on s'est battu pour installer des agriculteurs. Et ensuite, ce combat, on l'a continué sur le terrain économique, face à l'industrie de Roquefort, face aux grands groupes économiques qui pressuraient les paysans. Donc pour nous, ça a été une continuité, et la vie sur le plateau est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc la lutte, c'était un temps contre l'armée, contre l'extension du camp, et elle s'est continuée pour construire.
Alain Lipietz, vous êtes un ancien du Larzac ?
Oui,
vous n'avez pas votre carte, alors, puisqu'il n'y en a pas.
Non, je n'ai pas ma carte. Si, d'une certaine façon. Je suis un abonné d'une des deux centres qui continuent à exister sur le Larzac et qui continuent à animer à la fois des débats tout en ayant une activité agricole. À l'époque, j'étais un des animateurs de ce que Marisette
Tarlier
a cité la semaine dernière. La GOP, la gauche ouvrière et paysanne. J'étais donc très lié au mouvement des paysans travailleurs qui a eu un rôle très important pour déclencher la popularisation au niveau national de cette lutte du Larzac. Et donc j'ai eu la chance extraordinaire de participer très activement à cette espèce de fabrication d'une convergence extraordinaire de gens de toutes conditions, de gens de toute la France et même de l'étranger autour de cette lutte du Larzac.
Colonel Lenman, comment fait-on quand on arrive dans... Ça n'est pas un panier de crème, disons, mais dans un endroit aussi compliqué tout de même que le Larzac en tant que militaire, pour essayer de s'y retrouver, est-ce qu'on a des cours de rattrapage rapide quand on arrive dans un endroit comme celui-ci, pour essayer de comprendre ce qui tient de la gauche ouvrière paysanne, des paysans travailleurs, de la communauté de l'Arche, et ce qui tient de toutes les autres composantes dont on va parler maintenant dans le débat de ce mouvement du Larzac?
Bon, d'une part, il est effectivement indispensable pour le commandant du camp du Larzac de se plonger rapidement dans l'ambiance. Et je crois que j'avais un excellent professeur en la personne du lieutenant Coël Vérac, qui a vécu toute cette période et qui était mon adjoint et qui m'a expliqué du mieux qu'il a pu.
Qu'il m'a fait comprendre
la complexité du problème du Larzac et la complexité du mouvement qui était opposé à l'extension du camp.
Parce que effectivement, Alain Lipietz ou José Bové, ce qui est tout à fait étonnant quand on s'intéresse à cette histoire, donc qui naît au tout début des années 70, on l'a dit, on l'a rappelé dans le documentaire la semaine dernière, c'est justement cette multiplicité de mouvements qui viennent fusionner, comme par miracle, pourrait-on dire, sur ce plateau du Larzac qui n'en attendait pas tant.
Ça tient du miracle, mais c'est un énorme effort. On a mis des années à réaliser l'embryon de cette unité. Alors, je crois qu'il faut d'abord saluer l'extraordinaire personnalité des animateurs du Larzac.
Il y avait une communauté. Ils se sont découverts animateurs en chemin, parce que c'est impossible.
Ils se sont découverts animateurs en chemin, mais tout le monde, tous les animateurs de lutte n'ont pas les mêmes qualités humaines. Bon, Marisette Tarlier et d'autres contributions la semaine dernière ont parlé de la difficulté des paysans à admettre les chevelus, les maoïstes qui arrivaient. Bon. Pour nous autres, les chevelus maoïstes, etc., c'était pas simple non plus d'appréhender
pourtant, le paysan
Marisette Tarlier,
pourtant,
femme chrétienne, une agriculture qui ne ressemblait pas du tout à, je sais pas, si on prenait un mythe actuel, Chico Mendes en Amazonie, c'était quand même
ça
une
n'était pas l'agriculture des centaires. Oui.
Ah oui, c'était quand même une agriculture déjà très performante qui a d'ailleurs causé cette résistance. Mais cette extraordinaire ouverture des paysans a beaucoup joué. Et alors ensuite, à l'intérieur, alors chez les autres, faire converger des paysans, des ouvriers, des lycéens qui se mobilisaient contre la loi Debré, faire comprendre, même au mouvement des paysans travailleurs, qu'en allant au Larzac, ils ne défendaient pas seulement une lutte paysanne, mais une lutte occitane, des luttes ouvrières, des luttes pour l'emploi, etc., ça a demandé des années de débat.
Oui, parce qu'on a quand même l'impression d'un immense fourre-tout, José Bové, c'est-à-dire que on parle des Occitans, par exemple. Les Occitans se sont retrouvés sur le plateau, mais pas tous, parce que certains considéraient que vous n'étiez pas assez Occitan pour eux. Il y avait les chrétiens... mais pas tous les chrétiens, il y avait les antimilitaristes, peut-être pas tous les antimilitaristes, enfin, il y avait disons une potion un peu complexe à mettre en place.
Je crois qu'il y a eu effectivement différentes phases dans le soutien, ça a été dit dans la première émission, un soutien d'abord institutionnel, au départ les organisations traditionnelles de soutien à l'agriculture,
FDSEA,
les notables ruraux, et c'est vrai que petit à petit, la mayonnaise a pris avec un soutien qui s'est élargi. Mais c'est vrai que dès le début... le mouvement de l'Arche était présent dès le début des mouvements politiques comme le PSU.
Le mouvement non violent de l'Arche.
Bon, les mouvements comme le MDPL, le PSU de Toulouse sont arrivés. Et c'est vrai que très rapidement, un soutien s'est élargi. C'était une nécessité pour les gens du plateau. Il faut quand même voir qu'il y avait en gros 103 familles. 103 familles, ça faisait, mettons, une cinquantaine de militants, une soixantaine de militants maximum. Et c'était la survie de cette lutte, la possibilité de gagner passait par cette ouverture.
Mais ça passait d'abord par le relais de Millau, qui était quand même la ville la plus proche.
Ça passait par le relais de Millau. Millau était déjà... À Millau, il y avait des réseaux de militants. Il y avait des gens qui s'étaient battus, comme Gérard Deruy l'a expliqué l'autre fois déjà, contre le camp d'internement du Larzac. Donc il y avait déjà tout un mouvement...
C'était un camp pendant la guerre d'Algérie.
C'était un camp d'internement des Algériens. Donc il y avait eu là déjà un noyau de résistance. Donc là, il y a une convergence.
Et c'est ça veut dire que le chemin était tracé pour certains pour arriver jusqu'ici, ou est-ce qu'il a fallu le faire, ce chemin? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait tout un travail pour tout un tas de militants à accepter de descendre dans le sud, de descendre sur ce plateau, de rencontrer des gens qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'aimaient pas forcément de prime abord?
Je crois que ce qui a été fort, c'est que les paysans ont su, par quelques actes très précis, arriver à faire une symbolique telle que des gens de milieux complètement différents pouvaient se retrouver. Et je crois qu'un des premiers actes forts, j'y ai réfléchi cette semaine, ça apparaissait complètement incongru qu'en 72, des paysans décident de faire leur première manifestation, leur première marche, en montant en tracteur à Rodez le 14 juillet.
C'est vrai. D'ailleurs, on a écouté les archives de France Inter de l'époque, où le présentateur mettait ça en rapport avec des choses un peu saumâtres qui s'étaient passées à Paris en même temps, une contestation qui n'était pas de bonne allure.
Le 14 juillet, c'est la fête nationale, c'est la fête de l'armée. Les paysans ont choisi cette date-là pour contester l'État et pour protester contre l'armée. Manifestement, c'était quelque chose qui a été fondamental pour que l'ensemble des gens qui pouvaient se retrouver en contestation face à l'État se retrouvent. Je
Didier
crois
Martin.
Que c'est un fondateur.
Didier Martin, puis Alexandre Allan.
Il faut pas oublier, c'est le contexte de départ. C'est-à-dire qu'il y a une conjonction entre à la fois un contexte, on est dans le reflux de mai 68, il y a l'éclosion en même temps de tout un tas de mouvements sociaux qui sont en train de se restructurer, ce qu'on appelait les mouvements nationalitaires, ou mouvements régionalistes. Un mouvement féministe, etc. Il y a tout un tas de mouvements qui sont en train d'éclore et qui sont en train, eux aussi, de chercher, je dirais, un espace fort. Faut pas oublier que c'est aussi à cette époque qu'on a commencé, que toutes les luttes sociales ont commencé à s'agréger autour de la question de l'aménagement de l'espace. Lutte antinucléaire, etc. Golfech, Plogoff, plus tard, etc. Il y a tout. C'est-à-dire que c'est un moment. Donc, le Larzac arrive, entre guillemets, à point nommé pour pouvoir fédérer cette recherche-là. Et en même temps, il va permettre, c'est-à-dire l'arrivée de tout un tas de militants, ça produit à la fois un problème, c'est-à-dire des rencontres, un choc culturel un peu compliqué, mais en même temps, ça permet au groupe du Larzac, peu à peu, d'avoir le temps de se constituer. Ce qui n'est pas toujours le cas dans un mouvement social. C'est-à-dire, il n'est pas sûr que si hors de ce contexte, le groupe aurait eu le temps de se constituer avec toutes ces contradictions, avec tout ce cheminement nécessaire à faire. Et je dirais, le dernier mot, c'est qu'en plus, ça va, à mon avis, être l'originalité de tout ce mouvement dans sa durée. C'est-à-dire, dans l'espèce de mouvement assez complexe entre le rapport entre les gens du plateau et les gens extérieurs, et puis tout ce qui va se passer aussi à l'intérieur.
Alexandre Allan.
Même s'il y avait quelques conflits entre les gens de l'extérieur et les gens de l'intérieur, le génie de Larzac était la règle que les paysans finalement décidaient oui ou non pour les actions. Et ils ont gardé le contrôle comme ça, démocratiquement parmi eux et aussi avec les militants de l'extérieur. Ça, c'est une chose très, très importante.
Alors ça, est-ce que c'est véridique ou est-ce que d'une certaine façon, ça ne fait pas partie de la construction a posteriori du mythe Larzac dont on parlera plus tard? C'est-à-dire, véritablement, les gens du plateau conservaient la tenue de l'ensemble des manifestations?
Je pense que c'est la vérité. Et puis, il faut dire aussi que la non-violence a joué un rôle très important, pas seulement
apporté
parce que
à partir
les gens...
de Pâques 72 par le jeune de Lanza del Vasto sur le plateau.
Oui, mais les gens croyaient vraiment, il y avait ceux qui trouvaient la non-violence comme une manière de faire la lutte, mais quand même, il y avait, je pense, la majorité étaient les gens convaincus. Et il faut dire que la meilleure arme contre une force militaire, c'est la non-violence. C'est une drame, une pièce de théâtre qui s'est jouée. Parce que quand les paysans occupent une ferme déjà dans les mains de l'armée avec une grande mère, une vache qui occupe une maison assez tard en automne quand il fait très froid, et l'armée contrôle l'eau. L'armée est dans une position impossible. C'est impossible de répondre à cette dynamique.
Colonel Hellman, ce qui est assez frappant, c'est d'imaginer, vous êtes arrivé bien plus tard sur le plateau vous-même, mais qu'effectivement, on a l'impression d'un décalage entre la position gouvernementale, représentée par la position du ministre de la Défense et la position des armées de l'époque, et puis l'époque, justement. C'est-à-dire, on a l'impression d'une continuation de pratiques, qui sont des pratiques qu'on pourrait dire des années 60, c'est-à-dire où on ne me demande pas forcément aux populations locales l'intérêt, la volonté qu'ils ont d'accueillir un camp ou de le voir s'agrandir. Et puis, une époque où justement naissent des particularités, des particularismes et des identités régionales qui font qu'on ne veut plus justement de décisions venues d'en haut.
Oui, non, mais là, vous l'avez bien expliqué lors de la première émission de la semaine dernière. En fait, la volonté d'extension du camp n'a pas été un fait des militaires. En fait, ce sont les politiques, une partie des politiques locaux et certaines personnes qui avaient des intérêts politiques, des intérêts économiques d'ailleurs
qui ont
incité le gouvernement de l'époque à agrandir le camp, et cet agrandissement du camp a été décidé dans le cadre d'un plan d'aménagement du territoire. Et c'est ensuite qu'on a demandé aux militaires.
Oui, alors, qu'est-ce que Pierre Messmer disait la semaine dernière, on avait fait camp Jouer, ça s'était bien passé, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien aussi pour le Larzac.
En fait, ça s'est fait en même temps. On ne peut pas dire qu'il y a eu camp Jouer avant le Larzac. Les deux camps ont été.
Il y a eu un endroit où ça s'est mieux passé qu'à l'autre.
Oui, il n'y avait pas de paysans du Larzac à camp Jouer.
Alain Lipiette, est-ce qu'il n'y a pas là les fondements d'une contestation, enfin, le plus petit dénominateur commun des gens qui se retrouvent sur le plateau, n'est-il pas justement la contestation d'un État centralisé, tel qu'on ne voulait plus au début des années 70 ?
S'il n'y avait eu que ça, ça n'aurait pas si bien marché. Je crois que ça a été très important. C'était ce qui faisait l'unité, c'était l'unité contre l'ennemi, l'armée, du capital, etc.
Il y avait des slogans formidables à l'époque.
Mais vous ça n'aurait pas marché comme ça s'il n'y avait pas eu le charme autour. Pour fabriquer un mythe, il faut qu'il y ait de la beauté. Et le plateau du Larzac et son extraordinaire beauté...
Vous voulez dire que si ça s'était fait dans les plaines de Champagne...
Et puis les gens du Larzac, c'est ça aussi qui fédérait. Je voudrais vraiment, alors là, apporter mon témoignage à propos de votre dernière question, là, sur est-ce que c'était vraiment les 103, ou du moins le noyau des 103 qui décidaient. Là, je suis absolument affirmatif. J'ai relu mes notes de l'époque, mes archives de l'époque. Les mouvements de soutien au Larzac émettaient des critiques assez dures à certains moments sur certains choix tactiques des paysans. Par exemple, en 72, d'avoir choisi un peu trop longtemps, à mon avis, l'unité avec la FNSEA, avec le syndicalisme officiel. Mais tant que le mouvement des 103, enfin les 103 eux-mêmes, n'avaient pas évolué sur cette question, il était exclu.
Est-ce que ça tenait à une vision maoïste du paysan ? C'est-à-dire d'un paysan sacralisé, parce que tout compte fait, le maoïsme de l'époque avait beaucoup sacralisé le paysan, peut-être plus que l'ouvrier d'ailleurs. À quoi ça tenait cette vision justement que le paysan devait garder jusqu'au bout le dernier mot ?
Certainement, il y avait le préjugé maoïste que ceux qui étaient les travailleurs en lutte devaient avoir la direction de leur propre mouvement, ça c'est certain. C'est pas seulement un préjugé, je crois que c'est un bon principe même maintenant. Et d'autre part, ben, y a la réalité pratique. Enfin, ils étaient sur place, c'est eux qui assumaient au quotidien l'affrontement. Nous, on était, je dirais pas les vacanciers, mais enfin les grands mouvements de soutien au Larzac, c'était pendant les vacances. L'activité pratique des comités Larzac, ça se déroulait à 800 km quelquefois de la lutte.
José Bové.
Moi, je veux tempérer un peu ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est vrai que si le Larzac... C'est le Larzac qui a choisi lui-même délibérément de garder le contrôle de la situation parce qu'effectivement, il tenait le terrain. Et c'était les paysans qui étaient menacés directement, donc c'était légitime. Mais c'est vrai que le mouvement de soutien, plus les années ont avancé, à partir des années 75-76, le mouvement de soutien est devenu très important en termes de participation, on peut dire quasi permanente. C'est-à-dire que les gens des comités Larzac, il n'y avait pas un mois sans qu'ils montent sur le plateau. Et c'est vrai que les dernières années de lutte ont pu être menées grâce à ça. Si le mouvement de soutien s'était pas mobilisé autant, c'est-à-dire que si des gens de Lyon, de Paris, de toutes les villes, de Marseille, etc., n'étaient pas venus régulièrement tous les mois pour travailler avec les gens du plateau, pour organiser, pour essayer de réfléchir à quelle stratégie, je pense qu'on n'aurait jamais pu tenir aussi longtemps.
Ces comités Larzac, ils étaient fondés sur le modèle des comités Vietnam, c'était quelque chose qui ressemblait à ça, c'est-à-dire la volonté d'avoir des nids comme ça dans toutes les villes.
Je pense qu'au départ, l'idée, c'était effectivement d'élargir le soutien. Et quand les comités Larzac se sont constitués, ils se sont constitués de gens à partir d'organisations, la plupart du temps, avec des individus en plus. Mais petit à petit, et moi je trouve que c'est une spécificité, c'est que les comités Larzac, au fur et à mesure des années, sont devenus des structures militantes en soi. Les gens avaient des activités à l'extérieur,
oui, quand on
mais il y avait
pas...
véritablement une unité qui se créait à l'intérieur des comités Larzac, et les comités Larzac devenaient un mouvement politique presque en lui-même.
Oui, dans une ville, si on ne voulait pas adhérer au PC, si on ne voulait pas adhérer au PS, par exemple, on pouvait aller au comité Larzac, on n'y adhérait pas, mais, non, mais dans certaines villes de province, ça servait d'exutoire à une certaine extrême gauche ou une gauche non communiste, et on pouvait faire des luttes, on pouvait mener des luttes.
Je pense que c'était plus exactement un lieu fédérateur pour se battre ensemble, pour une cause sur laquelle on était d'accord.
Didier Martin.
Je dirais que l'extérieur, il a été doublement nécessaire dans toutes ses composantes. C'est-à-dire que la meilleure illustration de ce rapport compliqué, conflictuel...
Entre l'intérieur et l'extérieur.
Et l'intérieur et l'extérieur, c'est effectivement les conflits qu'il y a eu très souvent entre les comités Larzac et gens du plateau.
Pourquoi est-il si difficile de faire parler les gens du plateau des conflits qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, selon vous, Didier
Parce
Martin.
Que c'est le mythe. Il faut sauvegarder le mythe. C'est-à-dire que ça a été aussi une des richesses de ce mouvement, c'est la façon dont ils ont réussi à travailler à la médiatisation de leur propre mouvement.
Alors ça, on peut y venir, parce qu'effectivement, il y a un travail de communication tout à fait exceptionnel de tous les
paysans
du Larzac.
Oui, mais je voulais dire aussi une autre chose. C'est-à-dire que quand je parlais d'un double, je dirais l'armée a joué un rôle, à son corps défendant. C'est-à-dire que je pense que la spécificité de ce mouvement, ça a été aussi la visibilité de l'ennemi. C'est-à-dire que rares sont les mouvements, y compris les luttes qui éclatent en milieu ouvrier, etc. Je dirais, a fortiori aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas l'extérieur, le représentant de ce qui vous arrive, etc. est lointain, évanouissant, etc. Alors que là, je dirais, souvent, moi, quand je suis allé sur le plateau, j'ai vu des fois où le moral était bas, et qui permettait à un moment donné de faire remonter, comme dans une creux de vague, en haut de vague, c'était, par exemple, quand l'armée se mettait à circuler en dehors des horaires prévus au moment des passages des bus scolaires, ce qui a été évoqué à l'émission de la semaine dernière.
Le colonel Vérin,
et immédiatement, ça reprovoquait, les gens vivaient à nouveau une épopée, c'est-à-dire un temps fort.
Alexandre Allan.
Il faut dire aussi que la non-violence comme croyance et comme tactique demande l'unanimité des gens. On ne peut pas être non-violent et avoir les conflits trop évidents entre les gens. Donc,
est-ce qu'il y a des gens qui quittaient le mouvement, d'après ce que vous avez pu savoir, Alexandre Allan,
oui,
au fur et à mesure?
Oui, il y avait quelques-uns qui ont quitté. Il y avait une famille qui a vendu à l'armée, il y avait quelqu'un qui a laissé. Mais je n'étais pas sur le Larzac pendant la lutte, et José sait mieux que moi ce qui s'est passé.
Non, je crois que par rapport au conflit... C'est vrai qu'il y a eu des moments de tension forte quand les stratégies que des gens du plateau n'avaient pas forcément les mêmes stratégies. Mais je crois qu'en même temps, moi je ne veux pas nier ces conflits parce que j'ai été acteur dedans et je crois que c'était important et qu'au moment où on les a vécus, c'était des conflits forts où on se demandait comment ça allait tourner. Hein, c'est vrai qu'on a évoqué dans la dernière mission la marche à pied en 78 avec la discussion au ministère des Armées. Moi, je me rappelle qu'on a passé le lendemain de cette rencontre avec l'armée, avec l'ensemble des gens du plateau, l'ensemble des comités Larzac dans le théâtre d'Ariane Mouchkine à la Cartoucherie, à s'engueuler copieusement pendant une journée entière. Et les gens sont repartis de là. On ne savait pas comment la lutte allait continuer. Donc, il y a eu des moments très forts de tension. Mais je crois qu'effectivement, l'action... sur le terrain, et la durée a permis effectivement de tenir. Parce que le fait qu'il y avait un processus en face de nous, à la fois d'occupation militaire, mais en même temps un processus juridique, faisait qu'il fallait chaque fois, face à une avancée du processus juridique, trouver une riposte. Et cette riposte permettait de redonner la primauté à l'action face au conflit.
François Angelier, vous avez lu la presse de ces années-là. Alors, qu'en ressort-il justement de cette image construite par les gens
mythique,
du plateau eux-mêmes?
Oui, c'est un partage assez sensible entre le symbolique et l'événementiel. C'est-à-dire, soit un jour c'est le mythe, soit le lendemain c'est l'événement. Et les deux finissent par se mélanger. En effet, à suivre dans la presse, Emmanuel Laurentin, entre 1972 et 1980, la longue saga du Larzac, on en retire une impression ambiguë. Celle d'une guérilla utopique ou bon enfant, comme le déclare en 1976 François, d'une sorte de Woodstock aux allures de Vercors soft et écolo, où la fête Spontex croise des actions de commando. L'attaque pourtant fut sèche. Si je pars, ce sera entre quatre planches, déclare au Figaro en janvier 73 un fermier expulsé. Le journaliste conclut pourtant, le Larzac c'est peut-être une cause perdue, mais pas une mauvaise cause. Le ton comme le tir devient plus tendue et c'est en 1975 dans Libé les photos de notables traînées dans la boue par les gardes mobiles. Photos que suit deux jours plus tard des déclarations de paysans. La tranchée, nous la creuserons, et cela très rapidement. Et pourquoi pas occuper un jour le camp militaire actuel ? Le combat ne doit pas rester limité au plateau, il doit se développer dans tout le pays. Et l'un des 103 de rajouter, une victoire au Larzac peut être un tremplin pour d'autres luttes. Après le combat vient la fête militante dont nous parle le 17 mars 1975, le quotidien de Paris. Au son des tambourins et des clarinettes, les participants, dont beaucoup portaient sur le visage un masque d'agneau ou arboraient la tenue des bergers du Larzac, longue cape et chapeau noir, ont affirmé, en criant des slogans et en chantant, leur volonté de laisser le Larzac aux paysans. Le combat reprend sur le terrain avec les propos clairs du fermier Bourrière, qui déclare à François le 31 mars « l'expropriation n'aura pas lieu, ou alors ce sera la fumade multipliée par 30 ». On ne se laissera pas flinguer sans riposter. Intransigeance que n'atténue qu'à peine la cession des 15 hectares par certains fermiers en 1977 et dont parlera peu la presse. Envoyé sur place par Libération en juin 1977, Philippe Val écrit « Il faut bien voir qu'un camp militaire, c'est comme une fourmilière. Les fourmis, elles ne sont pas toujours dedans. Pour l'armée, évidemment, les ennemis directs, ce sont les habitants des fermes du Larzac. Les provocations, d'ailleurs, ne manquent pas. La grogne perdure, en 1978, ou toujours dans Libération, un agriculteur déclare, avec un sens certain, Emmanuel Laurentin, de la métaphore, « Pâturer sur les terres de l'armée quand les chars y sont passés, c'est comme si on vous donnait une assiette pleine de nourriture après avoir marché dedans en vous disant de manger comme si de rien n'était. » Formule choc que renforce en novembre les propos du 103 Léon Maillet, « Quand il a fallu jeûner, on a jeûné, aujourd'hui il faut marcher, on marche. » Demain, s'il faut en venir à la grève de la faim illimitée, on y viendra. De marche en sitine, de cisaillage de câbles en brûlement de dossiers, rien ne semble décourager la sécession larzacienne, que la presse accompagne d'étape en étape depuis bientôt 10 ans. Le jour se lèvera pourtant en 1981 avec l'arrivée de l'ange salvateur délégué par Dieu lui-même, j'ai nommé Michel Rocard, qui rend le Larzac aux paysans en déclarant, citant Libé, du 27 novembre, ce qu'il y a de plus fantastique au Larzac, ce ne sont pas ces merveilleux paysages, mais le combat que les hommes ont mené pour le garder. Gardarem, Lou Rocard. Alors, quid du Larzac ? La contestation sur un plateau, comme l'affirmait le quotidien en mars 1974, une jacquerie exemplaire, comme le notait le matin en 1977, une bataille, comme le voulait de nouveau le quotidien de 1976, un symbole du refus de l'arbitraire, d'une aspiration à une véritable décentralisation, de la volonté de vivre au pays, comme le déclaraient Paul Quillès et Christian Nucci dans Le Monde de décembre 1978, ou encore un laboratoire de la paix, comme le diagnostiquait toujours le matin en janvier 1983. Concluons en citant quelques versets du texte poétique de Jean-Baptiste Tarrant, publié dans Libé du 23 août 1981. « Le Larzac est terrien, c'est l'endroit où l'on croit que la terre n'a plus que la peau sur les os. Qu'est-ce que la liberté sans risque de la perdre ? Au petit matin frais, le Larzac a du givre sur les lèvres. »
Colonel Hellman, les fourmis ne sont pas toujours dedans. Est-ce que vous pensez que les militaires ont disons, pratiquer ce qu'on appelle généralement dans le langage gauchiste de l'époque, des provocations à cette époque-là ?
Non, je ne crois pas. Il y en a peut-être eu, mais en règle générale, je ne crois pas. Les militaires, on leur avait demandé de garder les cinq fermes bien connues, hein, les trois fermes du Nord et puis les deux fermes qu'il y avait entre l'Hospitalet et la Couvertoirade. Donc on gardait ces fermes. Bon, les gens qui étaient dans les fermes, il fallait bien qu'ils mangent, donc il y avait des convois qui leur amenaient à manger. Des fois, les convois se perdaient. C'est vrai. Il y avait des chefs de bord qui.
Il faut dire que certains militants enlevaient les panneaux aussi.
Les pistes du Larzac sont des pistes qui, à l'époque, étaient. Il n'y avait pas les beaux panneaux qu'il y a
oui,
maintenant.
Oui, maintenant, il y en a des.
Non, mais il faut quand même. Il faut dire quand même que, par exemple, autour de chez moi, autour de Montredon, les militaires ne se perdaient pas. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai qu'il y a eu des guérillas, des entraînements où ils ont fait. Souvent, ils sortaient. Ils tentaient de manœuvrer une fois avec des chars, une fois à pied, en se disant, bon, on va bien voir si ça les embête ou pas, et puis on va les pousser à partir. Hein, moi, je me souviens tout à fait de bazooka, de mortier sur la butte à 30 mètres de la maison. C'était pas une erreur, ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais je crois que c'était plus institutionnel, la provocation, effectivement, l'occupation de Fortin avec un drapeau français au milieu d'une ferme avec des soldats montant la garde sur les toits ou empêchant les paysans de venir avec des gourdins taillés dans des buis. Ça, c'était une provocation. Et c'est vrai que les gens montaient de Millau le dimanche voir les militaires dans leur cage. Et c'est vrai que c'est terrible, quoi.
Vous voulez dire que les militaires étaient aussi enfermés que les autres?
Mais les militaires étaient plus enfermés que nous.
Absolument. Il faut dire que nous avions des modes d'action qui étaient sans commune mesure avec les vôtres. Car nous étions obligés...
Beaucoup moins médiatiques, en tous les cas, à l'époque.
Nous étions obligés d'appliquer...
C'est dramatique pour vous.
Alors que tout était bon pour... Pour les militants, oui. Non, pour les civils. Pour les paysans du
Larzac. Non, pour les militants, je voulais dire, pas les militaires.
Oui, Monsieur de Ruy lui-même le disait. On bloquait les mairies. On piquait des documents. C'était des techniques que nous ne pouvions certainement pas utiliser.
Alexandre Alain. Kojima s'est montré beaucoup plus brutal dans son combat contre Greenpeace.
Bien sûr.
Alexandre Alain, donc justement sur cette capacité qu'a eu le mouvement à forger une communication, comme on dirait aujourd'hui, sans conseiller en communication, parce que d'une certaine façon, ils l'ont fait seul, cette communication, cette image extérieure qui a permis justement à des centaines de milliers de personnes d'avoir envie de descendre sur le Larzac tous les étés.
Mais exactement. Même il y avait une comité Larzac de New York. C'est peut-être oublié en France. Mais
qu'est-il devenu, vous le savez?
C'était les gens de Fellowship of Reconciliation, qui est un groupe non-violent américain, qui ont monté une grève devant Air France sur le 5e avenue, qui est très chic à New York, ouais. En disant « Sauvons le Larzac, garderons le Larzac ».
Donc, vous voulez dire qu'ils avaient une capacité particulière à mobiliser justement les opinions occidentales de cette période-là, des années 70?
Oui, mais il faut dire que c'était une période d'histoire, une fenêtre d'opportunité quand même.
Oui, comme pour une fenêtre de tir d'Ariane, vous voulez dire, c'est possible à un moment, mais ça n'est plus possible plus tard, c'est ce que vous voulez dire.
Et puis, il faut dire aussi que les paysans qui ont fait la lutte sont beaucoup plus âgés aujourd'hui. Ce n'est pas un avis pour l'armée de recommencer, mais je sais que... cette période est terminée, quand même.
José Bové, sur la construction, justement, de cette image, c'est vrai que quand on voit le slogan « Des moutons, pas des canons », on se dit que c'est un slogan simple, voire simpliste, et pourtant, ça, c'est ce qui, justement, fait se mobiliser les gens. Et puis, alors, d'autres slogans de l'époque, oui, sur les paysans travailleurs, dont vous les connaissez bien, enfin, d'autres sujets comme cela.
Non, mais je crois qu'effectivement...
Il y a les affiches, il y a tout un tas de choses qui
vont avec. Il y a eu tout un travail qui a été fait pour que cette lutte soit une lutte... qui prennent l'opinion publique à témoin. Et je crois que ça a été ça qui a été fondamental dans la lutte du Larzac, c'est qu'on a en permanence été en discussion avec l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais rien fait sans le faire...
L'interlocuteur, c'était plutôt l'opinion publique que le gouvernement ?
On ne pouvait pas gagner seul. Je reviens toujours à ça, c'est ça qui était fondamental. C'est que 100 personnes perdues sur un cause ne pouvaient pas gagner seul. Donc il fallait avoir des gens pour soutenir et l'opinion publique à témoin de ce qui pouvait se passer entre nous et l'armée. Et je crois que c'est pour ça qu'en permanence, chaque action, il a fallu médiatiser chaque action. Bon, il y a eu les brebis sous la tour Eiffel, ça a été la première. Il y a eu les marches en tracteur, la marche à pied, les grèves de la faim. Il y a eu chaque fois le refus de l'impôt, les renvois de livrets militaires. Chaque fois, il y a eu des choses qui étaient visuelles. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un foisonnement d'images... et de slogans. Bon, on cite « Des moutons, pas des canons », mais oui, « Faites la bourre, pas la guerre ». C'était quelque chose, ça, quand même. Hein.
Non, mais on a l'impression, effectivement, que c'est la continuité du travail de l'Atelier des Beaux-Arts pendant les 68. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'affiches qui continuent et qui sont posées, et que la communication par les affiches est presque une communication en tant que telle à l'époque, José Bové.
Oui, tout à fait. Mais je crois qu'il n'y a pas eu que les gens du plateau, parce qu'il y a eu des affiches qui ont été faites sur le plateau, mais il faut voir qu'il y a eu les dizaines et les dizaines d'affiches qui ont été faites à l'extérieur du plateau par des comités Larzac plus ou moins connus ou non. Une des plus connues, c'est celle qui représentait une cardabel, qui est donc la fleur du Causse, avec une foule qui marche dessous. Si je me souviens bien, elle avait été faite par un comité Larzac du Vigan. Mais plus personne s'en souvient. Et cette affiche est restée une des affiches symboliques de la lutte.
Didier Martin.
Oui, le mouvement pour se construire et pour durer, il avait besoin de ces images. Et en plus, il pouvait jouer sur des oppositions très fortes. Hein. L'armée, c'était la mort. Les paysans, c'était la vie. Il y avait l'opposition entre la terre défend et la terre qu'on arrache.
Oui, on aurait pu penser que c'était presque un mouvement réactionnaire. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire aussi, d'une certaine façon, c'est une paysannerie que l'on défend contre une modernisation, enfin, quelle qu'elle soit. On défend quelque chose de terrien contre...
On peut dire aussi c'est un mouvement anti-autoritaire. Je dirais ce que vous disiez tout
tout à l'heure qu'en présentant comme une spécificité des années 60, moi j'ai pas l'impression. Quand on étudie les mouvements sociaux, j'ai, par exemple, moi je trouve que les pouvoirs publics brillent par leur incapacité à prévoir ce genre de mouvement. Et on avait dit, bon, finalement, à Conjuvers, ça s'est bien passé, pourquoi ça se passerait pas bien ailleurs? Mais on peut continuer jusqu'à une actualité bien récente, beaucoup plus récente, sans aller plus loin, qui avait prévu le mouvement de 95, hein, etc., etc. Donc,
Alain Lipiette?
Ben, je crois qu'il faut toujours voir les deux aspects. Il y a l'unité de l'adversaire, ça nous a beaucoup aidé. Bon, par exemple, le succès de la marche de 73, c'était lié au fait que juste avant, il y avait une énorme mobilisation des lycéens contre un projet de Robert, c'était Michel Debré, excusez-moi. Oui, on perd le fil des Debré. Et qui voulait mettre le service militaire Debré, entre le bac et l'université. Hein. Bon, alors évidemment, ils allaient se mobiliser pour le Larzac et qu'il allait leur servir de symbole. Mais encore une fois, s'il n'y avait eu que le refus de quelque chose, ça n'aurait pas marché comme un pôle d'attraction. Et si c'était un pôle d'attraction, alors j'ai cité la beauté, j'ai cité la qualité de nos hôtes, hein, les paysans du Larzac. Je crois que les valeurs que ça représentait, qui étaient... Alors, vous dites l'agriculture, c'est quelque chose de réactionnaire. Ben, je ne vois pas pourquoi. D'abord,
non, je dis pas. Non, je suis fils des paysans moi-même. Bon, donc je n'ai pas l'occasion de dire.
L'agriculture, c'est quand même une des activités les plus permanentes.
Non, mais on aurait
le blé fait vivre, les arbres font mourir.
On aurait pu simplement considérer que c'était une image figée d'une agriculture figée, oui, qu'on ne voulait pas évoluer.
Alors justement, ce n'était pas une agriculture figée. Ça a joué aussi. Hein. C'est quelque chose qui a joué énormément. C'était, encore une fois, des paysans qui soit font du mouton avec un des plus célèbres fromages du monde, il faut quand même pas l'oublier. Et d'autre part, il y avait aussi la grande agriculture. Ça n'avait à aucun moment, on n'avait à aucun moment l'impression qu'on venait sauver quelque chose qui était en train de mourir. Mais au contraire, et c'est sans doute l'erreur initiale des pouvoirs publics, le plateau du Larzac était rentré dans une période de dynamisme et de créativité. Alors ça, c'est la toute première base matérielle. Et alors là, ce qui a été formidable, c'est la capacité d'agréger, oui. Alors, la non-violence. La non-violence, c'était pas évident, quelques années après mai 68, de faire comme ressuscité, comme renaissance de l'esprit de mai, quelque chose autour de la non-violence. Parce que en mai 68, on aimait bien singer la violence du Vietnam. Alors que là, mais on a parlé des 103 et de leur autodiscipline, mais les manifestations, elles étaient aussi extrêmement non-violentes. On arrivait à faire des grands pique-niques de 100 000 personnes sans laisser beaucoup de papier gras après. Enfin, il y avait une vraie autodiscipline librement consentie par le mouvement de soutien. Alors ensuite, il y avait la lutte pour l'emploi qui commençait. Je crois que c'est les paysans eux-mêmes, d'ailleurs, qui avaient noué le contact avec les luttes ouvrières dès 72, avec les ouvrières de la SAMEX à Millau. Et puis est arrivé là-dessus LIP, Noguer, Péchiné Noguer, avec des débats extraordinairement intéressants et compliqués. Les ouvriers de Noguer, c'était des gens qui avaient laissé se figer leur bac électrolyse d'aluminium pendant leur grève. Et ça, c'était un choc, hein, une insulte, en quelque sorte, à
la production.
Oui, mais plus que ça, à la fierté professionnelle, laisser son outil de travail se figer, hein, se détruire. Alors que les LIP, c'était le contraire. Hein. Nous, on produit, on fabrique, on vend. Il y a eu un débat extrêmement intense sur le Larzac. Et je crois que c'était des luttes de résistance, mais qui étaient des résistances au nom de quelque chose de plus beau qu'on pourrait faire une fois débarrassé de tout cela. Tout cela, c'était l'armée, le grand capital, etc., etc. Donc je crois que c'est pas seulement une lutte de résistance, c'était aussi un modèle de convivialité, de produire pour les autres, qui était extrêmement important dans la force de ce mythe.
Alexandre Allan, alors justement sur la construction du mythe, vous avez travaillé donc dans votre livre, dans l'étude que vous avez faite donc sur le Larzac. Quels sont les ingrédients qui permettent justement à ce Larzac de devenir un mythe?
Oh là là, ça c'est très compliqué, mais il y avait encore, il faut que je retourne à la non-violence qui est capitale. Par exemple, un journaliste m'avait dit il y a quelques semaines que quand il y avait un mort, je pense à Super Phoenix, il y avait une démonstration, il y avait une conférence de presse avant une grande manif sur le Larzac et Guy Tarlier a annoncé à la presse, je sais que vous êtes là pour voir la violence, mais je vous assure qu'il n'y aura pas un seul mort ici sur le Larzac. Puis il y avait les gens super intelligents de partout, les comités, les gens de Larzac eux-mêmes qui étaient très innovateurs. J'ai une collection de diapositives de plus de 100 affiches. Il y avait les pièces de théâtre faites sur le Larzac. Il y avait tous ces manifs qui étaient quand même à la fois sérieux et amusants. Par exemple, lâcher les moutons sous la
Tour Eiffel.
Ou aller à Paris pour labourer le Champ de Mars. Quand même, ouais. C'est quelque chose de très, très fort.
José Beauvais.
Oui, moi, ce que je crois, c'est que, en fait, si on peut parler de mythe, il s'est construit dans l'action. Oui. Il n'y a pas eu volonté de construire un mythe. Il y a eu volonté toujours d'avancer et de progresser. Et c'est vrai que Alex Alland fait référence à Malville. Quand je vois que 15 jours après donc la mort à Malville d'un militant, il y a eu le rassemblement de 77 du Larzac, dont le thème c'était « Vivre et travailler au pays ». Qu'est-ce qu'on a fait comme choix d'action militante? On a organisé une marche avec 100 tracteurs en plein milieu du camp militaire. Alors, ça aurait pu tourner au tragique. On a contrôlé, on est rentré en plein dans le camp militaire. C'était le premier rassemblement, c'est la première fois où on a mené 50 000 personnes dans le camp militaire. Bon, je crois que le mythe, il est là. C'est que chaque fois, on a dépassé ce qu'on avait fait la fois d'avant pour toujours aller plus loin.
Étonné.
Au niveau du... Pas étonné, mais chaque fois montrer un acte comme quoi la résistance et la volonté de vivre sur le plateau étaient plus forts que l'adversité.
Et le soutien des intellectuels, ça vous a aidé quand vous le citez dans votre livre, je crois, Alexander Alland, quand Jean-Paul Sartre dit « Je vous salue, paysans du Larzac, votre lutte est la plus belle du XXe siècle », ça peut aider justement des paysans du Larzac que d'avoir le soutien de grandes figures intellectuelles comme Jean-Paul Sartre à l'époque?
Je pense que tous les soutiens étaient bons à prendre. Hein, puisqu'à l'époque...
Avec des pincettes, c'est ce que vous voulez dire?
Non, mais non! Je crois que c'était important. Moi, je me rappelle quand Sartre a dit ça. Si je me souviens bien, c'était en 76, quand il y a eu les rencontres de Larzac Université. Et donc, c'était effectivement plutôt les intellectuels qui s'étaient mobilisés pour faire ces rencontres. Mais je crois que c'était significatif. C'est qu'il avait malgré tout le sens aussi des événements. Et le Larzac prenait une ampleur qui dépassait une simple lutte locale. Et je crois que ça devenait effectivement un enjeu.
Alain Lipiette.
L'expression « tous les soutiens étaient bons à prendre », c'est vrai, mais ce qui a fait la force du mythe, c'est que vous avez été capable de rendre ce soutien. Et ce qui était extraordinaire, c'est que, bon, par exemple, les paysans de Narita qui luttaient contre un aérodrome au Japon...
Une lutte beaucoup plus violente, a priori,
sont venus,
au départ.
Qui venaient des luttes extrêmement violentes, sont venus et pour le Larzac, ça rentrait dans cette espèce de boule de laine que devenait le mythe Larzac.
Et
les Indiens venaient. Jean-Marie Tjibaou, le leader de la lutte des Kanaks, en arrivait à considérer que c'était presque, quand il venait en métropole, c'était le Larzac, c'était sa base arrière, l'endroit où il pouvait venir se reposer, retrouver des copains, une fraternité de combat. Et je crois que c'est cette capacité d'agréger, de donner, mais recevoir aussi, recevoir pour donner, c'est ça qui a permis que le mythe agrège de plus en plus de choses pour donner cette idée, le Larzac, qui est, on ne peut pas définir en un seul mot, c'est à la fois la non-violence, la solidarité, la produire, la beauté, c'était tout.
Alexander Alland.
Je veux dire que le Larzac, c'était la vie quotidienne et ce n'était pas un mythe. Le mythe, c'est après la fin de la lutte. Le mythe Larzac existe toujours pour le bon et pour le mauvais. Et le bon, c'est que... il y a quand même les restes de la lutte qui restent comme symbole. Et souvent, dans les journaux, on voit quand il y a une proteste locale quelque part, c'est Larzac sur machin, toujours. Mais le mauvais, le mythe figé, c'est pas bon. Et c'est pourquoi je suis venu de New York ici pour dire que le Larzac vit toujours. Il vit autre chose qu'un mythe.
On va y venir. Colonel Lehnmann, justement, à propos de cette fin du passage aux politiques, puisque c'est donc François Mitterrand qui, disons, interdit l'extension du camp. Les militaires disent, ou les politiques qui soutenaient l'extension du camp disent, c'est tout de même malheureux puisque nous étions arrivés à nos fins. Alors comment était-il possible d'arriver à ces fins-là, justement, de dire on était au bord de réussir notre extension ou une mini-extension, comme on en a parlé à l'époque, et puis au bout du compte, donc arriver à faire quelque chose de ce Larzac-là, aujourd'hui, qui soit différent de ce qu'il était à l'époque.
L'accord global, en fait, devait donner de l'ordre de 16 à 17 000 hectares, je crois. Hein, donc cet accord global était pour ainsi dire acquis.
Qui était arrivé en 1980 à peu près, c'est ça ?
C'est ça, et qui était pour ainsi dire acquis au moment où il a été décidé d'arrêter. Bon, nous, en fait, de la même façon que c'est une décision politique qui avait été à l'origine du grand camp du Larzac, c'est une autre décision politique qui a dit bon, on arrête le grand camp. Nous, on a obéi sans aucun état d'âme. On a essayé sur les 3000 hectares du petit camp de faire quelque chose et de le faire le mieux possible. Alors, d'ailleurs, on y a fait un centre d'instruction du tir qui est unique en Europe.
José Bové, justement, alors sur cette idée que si le politique n'avait pas pris le relais en 81, eh bien cette lutte se serait peut-être perdue dans les sables. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je crois que de toute façon, le processus d'expropriation était en marche, et qu'au fur et à mesure des années, on a essayé de reporter chaque fois, d'attaquer au tribunal, d'attaquer en Conseil d'État, etc., etc. Bon, le processus avançait, donc inévitablement, on risquait d'être amené au bout du processus et d'aller à l'expropriation. Comment ça se serait passé au moment de l'expropriation ? Aujourd'hui, c'est pas évident, mais c'est vrai qu'en 81, quand il y a eu l'élection du président de la République, on était quasiment au bout du processus. Bon, si le président de la République...
C'est vous sauvé par le gong, alors.
Non, mais c'est-à-dire que là, il y a eu un phénomène double. Le mouvement social était devenu tellement important qu'il devenait malgré tout un symbole du changement et que François Mitterrand, candidat à la présidence de la République, a été obligé de mettre l'arrêt du projet d'extension dans ses promesses de candidat. Donc je crois qu'il y avait... Le Larzac a aidé Mitterrand à être élu. Et en même temps, une
Mitterrand
fois
a aidé
élu,
Larzac.
A aidé Larzac. Mais il faut quand même savoir que Hernu, 15 jours après, a tenté encore de faire un coup d'État et de revenir sur la décision, parce que ça n'avait pas été annoncé formellement. Et on a été obligé de monter à l'Élysée. Et je me souviens très bien qu'à l'Élysée, on a menacé, on a dit si dans les 8 jours, la décision n'est pas prise formellement en Conseil des ministres, on fait la grève de la faim devant la porte de l'Élysée.
Alors Alexander Allant, vous insistiez tout à l'heure sur votre venue en France depuis New York pour dire qu'il fallait dire que le Larzac a continué. Alors justement, ce qui est étonnant dans ce mouvement, c'est que contrairement par exemple au mouvement de l'IP ou à d'autres mouvements, effectivement, on a l'impression que après 81, après la fin de l'idée d'extension, eh bien ça continue.
Oui, oui, ces gens ont vécu quelque chose de longue durée. Ça, c'est très important parce que le LIP était assez court. Mais aussi, les paysans disent eux-mêmes que la terre veut dire quelque chose aussi. La vie sur la terre n'est pas la vie urbaine dans une ville. Les gens du Larzac sont très attristés par le fait que LIP n'a pas continué. Mais 10 ans de lutte, c'est quelque chose. Ces gens ont changé beaucoup et les nouveaux arrivés ont donné leur part aussi à cette évolution. Maintenant, c'est impensable pour moi et je pense bien pour eux de lâcher.
Alain Lipiès, vous êtes un tenant de l'écologie politique, comme on dit, puisque vous êtes porte-parole des Verts. Est-ce que ça a joué un rôle fondateur, ce Larzac, pour tout ce qui est justement combat de l'écologie aujourd'hui et d'autres combats de ce type ?
Je pense que ça a été décisif pour colorer l'écologie à la française. Bon, j'ai dit tout à l'heure l'importance de la beauté de la nature au Larzac comme faisant partie de l'attractivité de la base, une des bases du mythe. Mais, on n'est pas simplement venu pour la beauté d'un paysage. On est venu pour des gens qui y habitaient. Et je crois que ça a durablement marqué la conception de l'écologie politique en France. Ce n'est pas le Sierra Club américain, par exemple. Ce n'est pas... En France, l'écologie, c'est
une
pas,
terre plus
c'est
des
pas
hommes.
Défendre la nature. C'est défendre une communauté dans son territoire. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante que nous a appris le Larzac. Il y a quelqu'un qui a dit... l'universel, c'est le local moins les murs. Mais justement, le Larzac, ça a été ça. C'est des gens qui ont été capables de diffuser... Enfin, cette lutte, pas seulement... Enfin, tous ceux qui ont participé à la lutte, ont diffusé une certaine idée que des gens qui vivent bien dans leur mode de vie et qui arrivent à le rendre beau ou à le laisser beau dans la façon dont ils y vivent et qui sont affrontés à des forces externes qui viennent saccager tout ça peuvent représenter la lutte de chacun pour vivre bien avec ses voisins chez soi. C'est cette idée d'unité entre une communauté et un territoire qui a formidablement marqué le mouvement vert, pas seulement en France d'ailleurs, mais en Europe. Il y a des Allemands qui venaient aussi au Larzac. Hein. Et je crois que c'est une différence assez importante avec, par exemple, l'écologie anglo-saxonne, avec d'ailleurs des débats assez compliqués. Toute cette idée que le mouvement du Larzac, c'est aussi la lutte des ouvriers, des paysans, la lutte pour l'emploi, etc. Mais ça se traduit par le fait que l'été dernier, le mouvement Agir contre le chômage a tenu son école d'été au Larzac encore cet été.
José Bové, donc le Larzac continue à être accueillant pour les étrangers.
Oui, je crois que le Larzac reste accueillant pour les étrangers. Bon, on a cité tout à l'heure, évidemment, les Kanaks qui sont venus. On a cité aussi les Polynésiens qui sont venus, les gens qui résistaient contre les essais nucléaires. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus de cette manière-là. Mais je crois que le Larzac a aussi été accueillant après 81 pour mener aussi un autre projet sur ce territoire libéré. C'est-à-dire qu'il
fait... Un territoire libéré, oui.
Oui, c'est un territoire libéré. C'est un territoire.
Il n'a pas été pris au départ, donc.
Si, parce qu'il y avait justement des fortins. Il y avait des fortins, il y avait des militaires, et c'est vrai que le jour de Pentecôte 81, quand les militaires ont quitté les fortins, ils ont roulé leurs barbelés, mais c'est vrai que ça a été la fête. Et on a effectivement pu, dans ces fortins, installer des exploitations agricoles, installer des associations, et on a pu redynamiser aussi un certain nombre de secteurs qui étaient complètement à l'abandon. Donc je crois que ça a été fondamental. On a pu quand même installer pas loin d'une vingtaine de nouvelles exploitations agricoles. On a pu installer des gens qui travaillent en dehors du milieu agricole. Et ce qui fait que, entre le moment où la lutte a démarré, parce que je crois qu'on n'en a pas parlé, mais la lutte aussi, ce qui a été important, c'est que l'une des premières constatations que les gens ont fait quand ils se sont retrouvés pour lutter contre l'extension, c'est de se dire, mais on a des enfants, et ces enfants, on est obligé de faire 30 ou 40 kilomètres pour les amener à l'école. Donc une des premières réalisations de la lutte, ça a été de dire, on veut une école chez nous. Et si l'État ne nous la fait pas, on la construit nous-mêmes. Bon, cette école a été construite avec 20 élèves au départ, en 73. Aujourd'hui, il y en a 50. Donc ça veut dire que le territoire s'est pas affaibli. Et au contraire, il a profité...
C'est le contraire d'un territoire à l'abandon. Donc.
Voilà, et je crois que ce qui est intéressant là-dessus, en deux mots, c'est de dire qu'en fait, c'est la dynamique sociale qui a créé le développement économique. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui était un peu nouveau, parce qu'on parle souvent de besoin de développement économique. Là, c'est le fait qu'il y avait une communauté humaine qui avait vécu quelque chose, qui avait envie de construire autre chose, qui a créé ensuite de l'économique.
Colonel Mann, est-ce que les militants du Larzac ont été assez accueillants, aussi accueillants avec les militaires après 81 qu'ils l'ont été avec d'autres personnes venant d'ailleurs ?
En général, oui. En général, oui. Je regrette simplement certains propos tenus par M. Léon Maillet, qui sont parfois, même souvent, injurieux. Mais en général...
Oh, pas dans l'émission de la semaine dernière,
En général, les paysans du Larzac sont très accueillants. Et j'ai été boire l'apéritif chez M. José Bové,
Ça s'est bien passé.
Très gentiment. Même lorsque les circonstances n'étaient pas toujours heureuses. Je voudrais dire aussi que ce Larzac... Effectivement, c'est une terre qui est très attachante et qui ne laisse pas indifférent, elle ne peut pas laisser indifférent. Tous les militaires qui sont passés, comme les paysans et comme les écologistes, sont très marqués par le Larzac et on revient très facilement au Larzac. Je voudrais dire aussi que le centre d'entraînement de l'infanterie au tir opérationnel qui est implanté au Larzac sur les 3000 hectares est visité par des tas d'étrangers. Hier encore, la semaine dernière encore, il y avait des Allemands.
Donc il y a les Kanaks ailleurs, autour, et puis il y a des étrangers dedans.
Absolument, absolument. L'inspecteur de l'infanterie allemande était au camp et son épouse était en train de visiter les hauts lieux des Templiers.
Didier Martin, vous êtes maintenant spécialisé, vous êtes sorti donc de ce combat du Larzac et de l'étude de ce combat du Larzac et vous êtes spécialisé sur les violences urbaines. Je voulais savoir, est-ce que vous avez l'impression que le Larzac est un combat d'une autre époque ou était encore un combat qui est porteur, justement, quand on travaille sur les violences urbaines en banlieue ou ailleurs aujourd'hui, de valeurs présentes pour aujourd'hui ?
Question difficile. Moi, j'ai l'impression que c'est un mouvement social. Enfin, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a vu un mouvement social naître, vivre et mourir. Précision, en tant que mouvement social. Ça ne veut pas dire qu'il reste rien. Il reste une trajectoire de personnes inscrites dans un territoire qui se sont beaucoup transformées et qui, comme le disait José Bové, en fin de compte, ont, à partir d'une dynamique sociale, créé toute une dynamique économique. Ça, c'est, pour moi, c'est la spécificité, c'est l'originalité de ce mouvement. Alors maintenant, de là à faire un parallèle, je dirais, avec ce qu'on peut voir dans certaines cités...
Non, mais c'est vrai que c'est très frappant, la non-violence de l'époque n'a pas l'air de correspondre à beaucoup de choses aujourd'hui.
une idée comme ça rapidement. Moi, j'ai l'impression que ce qui a été très fort au Larzac, c'est que les personnes savaient contre qui ils se battaient, pourquoi et au nom de quoi. Le gros problème qu'il y a aujourd'hui, par exemple, dans les cités où je travaille, c'est que les gens, il y a une dynamique, enfin, je dirais, il y a une identité très forte, mais il n'y a pas, on ne sait pas contre qui et on ne sait pas pourquoi. En revanche, il y a une identité très forte qui se traduit autour, je dirais, de la musique et de tout un tas de choses.
Alexandre Allan.
Je veux dire que les gens de Larzac, après la dissolution des comités Larzac, il y avait... le Larzac reste, mais les comités ne sont plus là. Donc, le mouvement national est dessus depuis 81, plus ou moins. Mais quand même, les gens de Larzac sont impliqués dans la vie de la ville de Millau, avec les gens, les pauvres qui habitent dans les petites cités à Millau. Ils font qu'ils peuvent pour les aider. Mais ce n'est pas la même dimension, ça c'est vrai, certainement.
C'est autre chose.
C'est autre chose.
Oui.
Et le journal Gardarem Lon-Larzac continue encore,
oui.
Il en est à son combien de numéros, José Bové?
Ben là, je ne sais pas, je ne saurais pas dire combien tième, mais il paraît tous les deux mois.
Où peut-on s'abonner? Parce que...
Alors on peut s'abonner, il faut écrire à Gardarem Lon-Larzac, Potensac, 12100 Millau.
Et on y trouvera donc des nouvelles de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et peut-être aussi un peu du Larzac.
Et on en trouve surtout du Larzac, mais aussi on continue à suivre ce qui se passe dans les gens chez les gens qu'on soutient. Et on fait aussi une revue de presse de tous les journaux qui continuent à parler du Larzac en bien et parfois de manière un peu caricaturale, comme dans l'événement du jeudi la semaine dernière, où Christine Bravo
a fait les années
Baba, et ça c'est tout à fait invraisemblable. Ce qui reste effectivement, on s'aperçoit souvent aujourd'hui, quand les gens emploient le mot Larzac, c'est chaque fois pour le mettre avec l'idée Baba. Alors que tout ce dont on vient de parler, c'est vraiment le contraire, puisque c'est un mouvement social et une lutte et quelque chose qui se construit. Donc c'est assez curieux.
Et ça a été un laboratoire social extraordinaire, dont il reste et bien évidemment les traces aujourd'hui.
Oui. Merci à tous. Merci Alain Lipietz, merci Alexandre Allan d'être venu donc de New York pour nous. Merci José Bové, merci au colonel Hellman, à Didier Martin. C'était donc l'Histoire en direct. Je rappelle la bibliographie de cette émission. Ivardi, Emmanuel Gabet, un livre qui doit être assez difficile à trouver aux éditions Alain Moreau. Dossier comme Larzac, ça date de 77. Gilles Bancarel, Larzac, terre de conquête. Le Larzac revisité aux éditions Edissud, et puis la bibliographie des invités. Alexandre Allan, donc le Larzac et après, c'est aux éditions de l'Harmattan, 1995. Didier Martin, c'était en 1987 à l'Harmattan, Larzac, Utopie et Réalité. Et puis vous avez dirigé aussi un ouvrage, L'épuisement professionnel d'automne, c'est aussi aux éditions de l'Harmattan, ça vient de paraître. Et puis Alain Lipietz, je rappelle votre dernier livre, je crois, c'est La société en sablier, la découverte en 1996. Merci à tous, c'était l'Histoire en direct, une émission préparée par Aurélie Luneau, les rédactions extérieures Laurent Covio et Claire Zalamansky, à la technique Georges Thau, Philippe Palarès et Jean-Claude de Gauthier. L'Histoire en direct, une émission d'Emmanuel Laurentin réalisée par Christine Robert.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 septembre 1997.